Les frères Karamazov, première partie, livre 3. Chapitre 5, confession d'un cœur ardent, la tête en bas. « Eh bien, dit Alyosha, je connais maintenant la première partie de l'affaire. C'est-à-dire un drame qui s'est passé là-bas. La seconde partie sera une tragédie et se déroulera ici. Je ne comprends rien à cette seconde partie. » Et moi, est-ce que j'y comprends quelque chose? Écoute, Dmitri, il y a un point important. Dis-moi, es-tu encore fiancé? Je ne me fiançais pas tout de suite, mais seulement 3 mois après cet événement. Le lendemain, je me dis que c'était liquidé, terminé, qu'il n'y aurait pas de suite. Aller la demander en mariage me parut une bassesse. De son côté, elle ne me donna pas signe de vie durant les 6 semaines qu'elle passa encore dans la ville. À part une exception, cependant, le lendemain de sa visite, leur femme de chambre se glissa chez moi et, sans dire un mot, me remit une enveloppe à mon adresse. Je l'ouvre, elle contenait le reliquat des 5 000 roubles. Il avait fallu en restituer 4 500. La perte en vendant l'obligation dépassait 200 roubles. Elle m'en rendait 260, je crois. Je ne me rappelle pas exactement. Et sans un mot d'explication. Je cherchais dans le paquet un signe quelconque au crayon. Rien. Je fis la noce avec ce qui restait de mon argent, si bien que le nouveau major fut obligé de me faire des remontrances. Le lieutenant-colonel avait rendu sa caisse intacte, à l'étonnement général, car on croyait la chose impossible. Après quoi il tomba malade, resta 3 semaines alité et succomba en 5 jours à un ramollissement du cerveau. On l'enterra avec tous les honneurs militaires, car il n'avait pas encore été mis à la retraite. 10 jours après les funérailles, Catherine Ivanovna, sa sœur et leur tante partirent pour Moscou. Le jour de leur départ seulement, je ne les avais pas revus, je reçus un billet bleu avec cette seule ligne écrite au crayon. « Je vous écrirai. Attendez. C. » À Moscou, leurs affaires s'arrangèrent d'une manière aussi rapide qu'inattendue, comme dans un conte des 1001 nuits. La principale parente de Catherine Ivanovna, une générale, perdit brusquement ses 2 nièces, ses plus proches héritières, mortes dans la même semaine de la petite vérole. Bouleversée, elle s'attacha à Katia comme à sa propre fille, voyant en elle son dernier espoir. Fit son testament en sa faveur et lui donna de la main à la main 80 000 roubles comme dot, pour en disposer à sa guise. Elle est hystérique. J'eus l'occasion plus tard de l'observer à Moscou. Un beau matin, je reçois par la poste 4 500 roubles. À mon extrême surprise, bien entendu. 3 jours après, arrive la lettre promise. Je l'ai encore. Je la conserverai jusqu'à ma mort. Veux-tu que je te la montre? Ne manque pas de la lire. Elle s'offre elle-même à partager ma vie. Je vous aime follement. Que vous ne m'aimiez pas, cela m'est égal. Contentez-vous d'être mon mari. Ne vous effrayez pas. Je ne vous gênerai en rien. Je serai un de vos meubles, le tapis sur lequel vous marchez. Je veux vous aimer éternellement. Je vous sauverai de vous-même. Alyosha, je suis indigne même de rapporter ces lignes dans mon vil langage, du ton dont je n'ai jamais pu me corriger. Jusqu'à maintenant, cette lettre m'a percé le cœur. Et crois-tu que je me sente à mon aise aujourd'hui? Je lui répondis aussitôt, car il m'était impossible d'aller à Moscou. J'écrivis avec mes larmes. Je rougirai éternellement de lui avoir rappelé qu'elle était maintenant riche et dotée. Et moi, sans ressources. J'aurais dû me contenir, mais ma plume me trahit. J'écrivis aussi à Ivan, alors à Moscou, et lui expliquai tout ce qu'il était possible. Une lettre de 6 pages. J'envoyai Ivan chez elle. « Qu'as-tu à me regarder ?»« Oui, Ivan est tombé amoureux de Katia. Il est toujours épris d'elle, je le sais. » J'ai fait une sottise, au point de vue du monde, mais c'est peut-être cette sottise qui nous sauvera tous. Ne vois-tu pas qu'elle l'honore, qu'elle l'estime? Peut-elle, après nous avoir comparés, aimer un homme tel que moi? surtout après ce qui s'est passé ici. Je suis persuadée que c'est un homme comme toi qu'elle doit aimer, et non pas un homme comme lui. C'est sa propre vertu qu'elle aime, et non pas moi. » laissa échapper Dmitri malgré lui, avec irritation. Il se mit à rire, mais soudain ses yeux étincelèrent. Il devint tout rouge et donna un violent coup de poing sur la table. « Je le jure, Alyosha !» s'écria-t-il dans un accès de fureur non joué contre lui-même. « Tu peux le croire ou non, aussi vrai que Dieu est saint et que le Christ est Dieu. Et, bien que j'aie raillé ces nobles sentiments, je ne doute pas de leur angélique sincérité. Je sais que mon âme est un million de fois plus vile que la sienne. C'est dans cette certitude que consiste la tragédie. Le beau malheur, que l'on déclame quelque peu. Moi aussi, je déclame, et pourtant je suis parfaitement sincère. Quant à Ivan, j'imagine qu'il doit maudire la nature, lui si intelligent. Qui a eu la préférence? Un monstre tel que moi, qui n'ai pu m'arracher à la débauche, quand tous m'observaient, et cela sous les yeux de ma fiancée. Et c'est moi qu'on préfère. Mais pourquoi? Parce que cette jeune fille veut, par reconnaissance, se contraindre à une existence malheureuse. C'est absurde. Je n'ai jamais parlé à Ivan dans ce sens, et lui, bien entendu, n'y a jamais fait la moindre allusion. Mais le destin s'accomplira, à chacun selon ses mérites. Le réprouvé s'enfoncera définitivement dans le bourbier qu'il affectionne. Je radote. Les mots ne rendent pas ma pensée. Mais ce que j'ai fixé se réalisera. Je me noierai dans la fange et elle épousera Ivan. Frère, attends, interrompit Alyosha dans une agitation extraordinaire. Il y a un point que tu ne m'as pas encore expliqué. Tu restes son fiancé. Comment veux-tu rompre si elle s'y oppose? Oui, je suis son fiancé. Nous avons reçu la bénédiction officielle à Moscou, en grande cérémonie, avec les icônes. La générale nous bénit. Figure-toi qu'elle félicita même Katia. « Tu as bien choisi, dit-elle. Je lis dans son cœur. » Quant à Ivan, il ne lui plut pas. Elle ne lui adressa aucun compliment. À Moscou, j'eus de longues causeries avec Katia. Je me peignis noblement tel que j'étais, en toute sincérité. Elle écouta tout. Ce fut un trouble charmant. Ce furent de tendres paroles. Il y eut aussi des paroles fières. Elle m'arracha la promesse de me corriger. Je promis. Et voilà où j'en suis. Eh bien, quoi? Je t'ai appelé, je t'ai amené ici aujourd'hui, rappelle-toi, pour t'envoyer ce même jour chez Catherine Ivanovna et... Quoi donc? Lui dire que je n'irai plus jamais chez elle, en la saluant de ma part. Est-ce possible? Non, c'est impossible. Aussi, je te prie d'y aller à ma place. Je ne pourrai pas lui dire cela moi-même. Et toi, où iras-tu? Je retournerai à mon bourbier. C'est-à-dire chez Grushenka? S'écria tristement Alyosha en joignant les mains. Rakitine avait donc raison. Et moi qui croyais que c'était seulement une liaison passagère. Un fiancé, avoir une liaison. Est-ce possible avec une telle fiancée et aux yeux de tous? Je n'ai pas perdu tout l'honneur. Du moment où je fréquentais Grushenka, je cessais d'être fiancé et honnête homme. Je m'en rends compte. Qu'as-tu à me regarder? La première fois que je suis allé chez elle, c'était dans l'intention de la battre. J'avais appris, et je sais maintenant de source sûre, que ce capitaine, délégué par mon père, avait remis à Grushenka un billet à ordre signé de moi. Il s'agissait de me poursuivre en justice, dans l'espoir de me mater et d'obtenir mon désistement. On voulait me faire peur. J'avais déjà eu l'occasion de l'entrevoir. C'est une femme qui ne frappe pas dès l'abord. Je connais l'histoire de ce vieux marchand, son amant, qui n'en a plus pour longtemps, mais qui lui laissera une jolie somme. Je la savais cupide, prêtante à usure, fourbe et coquine, sans pitié. J'allais donc chez elle pour la corriger et... J'y restais. Cette femme-là, vois-tu, c'est la peste. Je me suis contaminée, je l'ai dans la peau. Tout est fini désormais. Il n'y a plus d'autre perspective. Le cycle des temps est révolu. Voilà où j'en suis. Comme par un fait exprès, j'avais alors 3 000 roubles en poche. Nous sommes allés à Mokroï, à 25 verstes d'ici. J'ai fait venir des tziganes. J'ai offert le champagne à tous les paysans, aux femmes et aux filles de l'endroit. 3 jours après, j'étais à sec. Tu penses que j'ai obtenu la moindre faveur? Elle ne m'a rien montré. Elle est tout en repli, je t'assure. La friponne, son corps rappelle une couleuvre. Cela se voit à ses jambes, jusqu'aux petits doigts de son pied gauche qui emporte la marque. Je l'ai vue et baisée, mais c'est tout, je te le jure. Elle m'a dit, « Veux-tu que je t'épouse, bien que pauvre? Si tu me promets de ne pas me battre et de me laisser faire tout ce que je voudrais, je me marierai peut-être. » Et elle s'est mise à rire. Elle en rit encore maintenant. Dmitri Fiodorovitch se leva en proie à une sorte de fureur. Il avait l'air ivre. Ses yeux étaient injectés de sang. « Tu comptes sérieusement l'épouser ? Si elle consent, je l'épouserai tout de suite. Si elle refuse, je resterai quand même avec elle. Je serai son valet. Quant à toi, Alyosha... » Il s'arrêta devant lui et se mit à le secouer violemment par les épaules. « Sais-tu, innocent, que tout ceci est un vrai délire, un délire inconcevable, car il y a là une tragédie. Apprends, Alyosha, que je puis être un homme perdu, aux passions viles, mais que Dmitri Karamazov ne sera jamais un voleur, un vulgaire filou. Eh bien, apprends maintenant que je suis ce voleur, ce filou. Comme je me disposais à aller chez Krutchenka pour la châtier, Catherine Ivanovna me fit venir et me pria en grand secret, j'ignore pour quel motif, d'aller au chef-lieu envoyer 3 000 roubles à sa sœur à Moscou. Personne ne devait le savoir en ville. Je me rendis donc chez Krutchenka avec ses 3 000 roubles en poche et ils servirent à payer notre excursion à Mokroï. Ensuite, je fis semblant d'être allé au chef-lieu, d'avoir envoyé l'argent. Quant au récépissé, j'ai oublié de le lui porter malgré ma promesse. Maintenant, qu'en penses-tu? Tu iras lui dire. Il vous fait saluer. Elle te demandera « Et l'argent ?» Tu lui répondras « C'est un être bassement sensuel, une créature vile, incapable de se contenir. Au lieu d'envoyer votre argent, il l'a gaspillé, ne pouvant résister à la tentation. » Mais si tu pouvais ajouter « Dmitri Fiodorovitch n'est pas un voleur. Voici vos 3 000 roubles qu'il restitue. Envoyez-les vous-même à Agathe Ivanovna et recevez ses hommages. » Il n'y aurait que demi-mal. Tandis que si elle te demande « Où est l'argent ?»« Dmitri, tu es malheureux, mais moins que tu ne penses, ne te tue pas de désespoir. » « Penses-tu que je vais me brûler la cervelle si je n'arrive pas à rembourser ces 3 000 roubles ? Pas du tout, je n'en ai pas la force. Plus tard, peut-être, mais pour le moment, je vais chez Krutchenka. J'y laisserai ma peau. Et alors ? Je l'épouserai si elle veut bien de moi. Quand ses amants viendront, je passerai dans la chambre voisine. Je serai là pour cirer leurs chaussures, préparer le samovar, faire les commissions. » Catherine Ivanovna comprendra tout, déclara solennellement Alyosha. Elle comprendra ton profond chagrin et te pardonnera. Elle a l'esprit élevé. Elle verra qu'on ne peut pas être plus malheureux que toi. Elle ne pardonnera pas. Il y a là une chose impardonnable aux yeux de toute femme. Sais-tu ce qu'il vaut mieux faire? Et quoi? Lui rendre les 3 000 roubles. Ou les prendre? « Écoute, j'en ai 2 000. Yvan t'en donnera 1 000. Cela fait le compte. Quand les aurai-je tes 3 000 roubles? Tu es encore mineur au surplus, et il faut absolument que tu rompes avec elle en mon nom aujourd'hui même, en rendant l'argent ou non. Car au point où en sont les choses, je ne puis traîner plus longtemps. Demain, ce serait trop tard. Va chez le vieux. » « Chez notre père ? » ?»« Oui, chez lui d'abord. Demande-lui la somme. » « Dmitri, jamais il ne la donnera. »« Parbleu, je le sais bien. Alexei, sais-tu ce que c'est que le désespoir ?»« Oui. Écoute, juridiquement, il ne me doit rien. J'ai reçu ma part, je le sais. Mais moralement, me doit-il, oui ou non, quelque chose? C'est avec les 28 000 roubles de ma mère qu'il en a gagné 100 000. Qu'il me donne seulement 3 000 roubles, pas davantage. Il aura sauvé mon âme de l'enfer, et beaucoup de péchés lui seront pardonnés. Je me contenterai de cette somme, je te le jure, il n'entendra plus parler de moi. Je lui fournis une dernière fois l'occasion d'être un père. Dis-lui que c'est Dieu qui la lui offre. Dmitri, il ne les donnera à aucun prix. Je le sais bien, j'en suis sûre. Maintenant surtout. Mais il y a mieux. Ces jours-ci, il a appris pour la première fois sérieusement, remarque cet adverbe, que Grushenka ne plaisantait pas et se déciderait peut-être à faire le saut, à m'épouser. Il connaît son caractère à cette chatte. Eh bien, me donnerait-il de l'argent par-dessus le marché pour favoriser la chose alors qu'il est fou d'elle? Ce n'est pas tout. Écoute ceci. Depuis 5 jours déjà, il a mis de côté 3 000 roubles en billets de 100 dans une grande enveloppe avec 5 cachets, noués d'une faveur rose. Tu vois comme je suis au courant. L'enveloppe porte ceci. « Pour mon ange, Grushenka, si elle consent à venir chez moi. » Il a griffonné cela lui-même, à la dérobée, et tout le monde ignore qu'il a cet argent, excepté le valet Smerdiakov, dont il est aussi sûr que de lui-même. Voilà 3 ou 4 jours qu'il attend Grushenka, dans l'espoir qu'elle viendra chercher l'enveloppe. Elle lui a fait savoir qu'elle viendrait peut-être. Si elle va chez le vieux, je ne pourrai plus l'épouser. Comprends-tu maintenant pourquoi je me cache ici et qui je guette? Elle? Oui, ses gares sont cédées et une chambrette à Foma, un ancien soldat de mon bataillon. Il est à leur service. Monte la garde la nuit et tire les coques de bruyère dans la journée. Je me suis installée chez lui. Ses femmes et lui ignorent mon secret, à savoir que je suis ici pour guetter. Smerdiakov seul le sait? Oui, c'est lui qui m'avertira si Grushenka va chez le vieux. C'est lui qui t'a parlé du paquet? En effet, c'est un grand secret. Ivan lui-même n'est au courant de rien. Le vieux l'a envoyé promener à Tchermachnia pour 2 ou 3 jours. Un acheteur s'est présenté pour le bois, il en offre 8 000 roubles. Le vieux a prié Ivan de l'aider, d'y aller à sa place. Il veut l'éloigner pour recevoir Grushenka. Il l'attend par conséquent aujourd'hui? Non, d'après certains indices, elle ne viendra pas aujourd'hui, sûrement pas, s'écria Dmitri. C'est aussi le sentiment de Smerdiakov. Le vieux est maintenant attablé avec Ivan, en train de boire. Va donc, Alexeï, demande-lui ses 3 000 roubles. Mitya, mon cher, qu'as-tu donc? S'exclama Alyosha en bondissant de sa place pour examiner le visage égaré de Dmitri. Il crut un instant que son frère était devenu fou. Eh bien, quoi? Je n'ai pas perdu l'esprit, proféra celui-ci, le regard fixe et presque solennel. N'aie crainte, je sais ce que je dis. Je crois au miracle.
Au miracle?
Au miracle de la Providence. Dieu connaît mon cœur. Il voit mon désespoir. Est-ce qu'il laisserait s'accomplir une telle horreur? Alyosha, je crois au miracle. Va!
J'irai. Dis-moi, tu m'attendras ici?
Bien sûr. Je comprends que ce sera long. On ne peut pas l'aborder carrément. Il est ivre à présent. J'attendrai ici 3, 4, 5 heures. Mais sache qu'aujourd'hui, même à minuit, tu dois aller chez Catherine, avec ou sans argent, et lui dire « Dmitri Fyodorovitch m'a prié de vous saluer. Je veux que tu répètes cette phrase exactement. »
Mitya, et si Grushenka vient aujourd'hui? Ou demain, ou après-demain?
Grushenka, je surveillerai, je forcerai la porte et j'empêcherai.
Mais si...
Alors je tuerai, je ne le supporterai pas.
Qui tueras-tu?
Le vieux. Elle, je ne la toucherai pas.
Frère, que dis-tu?
Je ne sais pas, je ne sais pas. Peut-être le tuerai-je, peut-être ne le tuerai-je pas. Je crains de ne pouvoir supporter son visage à ce moment-là. Je hais sa pomme d'Adam, son nez, ses yeux, son sourire impudent. Il me dégoûte. Voilà ce qui m'effraie. Je ne pourrai pas me contenir.
Je vais, Mitya. Je crois que Dieu arrangera tout pour le mieux et nous épargnera ces choses horribles.
Et moi, j'attendrai le miracle. Mais s'il ne s'accomplit pas, alors... »
Alyosha, pensif, s'en alla chez son père.
Chapitre 6. Smerdiakov. Il trouva Fiodor Pavlovitch encore à table. Comme d'habitude, le couvert était mis dans le salon et non dans la salle à manger. C'était la plus grande pièce de la maison, meublée avec une certaine prétention surannée. Les meubles, fort anciens, étaient blancs, recouverts d'une étoffe rouge, mi-soie, mi-coton. Il y avait des trumeaux aux cadres prétentieux, sculptés à la vieille mode, également blancs et dorés. Au mur, dont la tapisserie blanche était fendue en maints endroits, figuraient deux grands portraits, celui d'un ancien gouverneur de la province et celui d'un prélat, mort lui aussi depuis longtemps. Dans l'angle qui faisait face à la porte d'entrée se trouvaient plusieurs icônes, devant lesquelles brûlait une lampe pendant la nuit, moins par dévotion que pour éclairer la chambre. Fiodor Pavlovitch se couchait très tard, à 3 ou 4 heures du matin, et jusque-là se promenait de long en large ou méditait dans son fauteuil. C'était devenu une habitude. Il passait souvent la nuit seul, après avoir congédié les domestiques. Mais la plupart du temps, le valet Smerdiakov dormait dans l'antichambre, couché sur un long coffre. À l'arrivée d'Alyosha, le dîner s'achevait. On avait servi les confitures et le café. Fiodor Pavlovitch aimait les douceurs après le dîner, avec du cognac. Ivan prenait le café avec son père. Les domestiques, Grigori et Smerdiakov, se tenaient près de la table. Maîtres et serviteurs étaient visiblement de joyeuse humeur. Fiodor Pavlovitch riait aux éclats. Alyosha, dès le vestibule, reconnut son rire glapissant qui lui était si familier. Il en conclut que son père, encore éloigné de l'ivresse, se trouvait dans d'heureuses dispositions.
« Le voilà enfin !»
s'écria Fiodor Pavlovitch, enchanté de l'arrivée d'Alyosha. « Viens t'asseoir avec nous. Veux-tu du café noir? Il est bouillant et fameux. Je ne t'offre pas de cognac, puisque tu jeûnes. Mais si tu en veux... Non, je te donnerai plutôt une de ces liqueurs. Smerdiakov, va au buffet. Tu la trouveras sur le second rayon à droite. Voici les clés. Oust !»
Alyosha commença par refuser.
« On la servira quand même. Pour nous, sinon pour toi. Dis-moi, as-tu dîné ?»
Alyosha répondit que oui. En réalité, il avait mangé un morceau de pain et bu un verre de kvass à la cuisine du père abbé.
« Je prendrai volontiers une tasse de café. »«
Ah, le gaillard, il ne refuse pas le café. Faut-il le réchauffer ?»«
Non, il est encore bouillant. C'est du fameux café, préparé par Smerdiakov. Il est passé maître pour le café, les tourtes et la soupe aux poissons. Tu viendras un jour manger la soupe aux poissons chez nous. Avertis-moi à l'avance. À propos, ne t'ai-je pas dit de transporter ici ton matelas et tes oreillers aujourd'hui même ?
Est-ce fait ?
Non, je ne les ai pas apportés, répondit Alyosha, souriant aussi.
Ah ah ! Et cependant, tu as eu peur. Avoue que tu as eu peur.
Suis-je capable de te faire de la peine, mon chéri ? Écoute, Ivan, quand il me regarde dans les yeux en riant, je ne peux pas y résister. La joie me dilate les entrailles, rien qu'à le voir. Je l'aime.
Alyosha, viens recevoir ma bénédiction.
Alyosha se leva, mais Fiodor Pavlovitch s'était ravisé.
Non, je ferai seulement un signe de croix, comme ça. Va t'asseoir. À propos, tu vas être content. L'ânesse de Balaam a parlé, et sur un sujet qui te tient à cœur. Écoute un peu son langage. Cela te fera rire.
L'ânesse de Balaam n'était autre que le valet. Smerdiakov, jeune homme de 24 ans, insociable, taciturne, arrogant, et qui paraissait mépriser tout le monde. Le moment est venu de dire quelques mots du personnage. Élevé par Marthe Ignatievna et Grigori Vassilievitch, le gamin, nature ingrate selon l'expression de Grigori, avait grandi sauvage dans son coin. Il prenait plaisir à pendre les chats, puis à les enterrer en grande cérémonie. Il s'affublait d'un drap de lit en guise de chasuble et chantait en agitant un simulacre d'encensoir au-dessus du cadavre. Tout cela dans le plus grand mystère. Grigori le surprit un jour et le fouetta rudement. Pendant une semaine, le gamin se blottit dans un coin en regardant de travers. « Il ne nous aime pas, le monstre !» disait Grigori à Marthe. « D'ailleurs, il n'aime personne. »« Es-tu vraiment un être humain ?» demanda-t-il une fois à Smerdiakov. « Non, tu es né de l'humidité des étuves. » Smerdiakov, comme on le vit par la suite, ne lui avait jamais pardonné ses paroles. Grigori lui apprit à lire et lui enseigna l'histoire sainte dès sa 12e année. Mais cette tentative fut malheureuse. Un jour, à une des premières leçons, le gamin se mit à rire. « Qu'as-tu ? » demanda Grigori en le regardant sévèrement par-dessus ses lunettes. « Rien. Dieu a créé le monde le premier jour, le soleil, la lune et les étoiles le 4e jour. D'où venait donc la lumière le 1er jour ?» Grigori demeura stupide. Le gamin considérait son maître d'un air ironique. Son regard semblait même le provoquer. Grigori ne put se contenir. « Voilà d'où elle est venue !» s'écria-t-il en le souffletant violemment. L'enfant ne broncha pas, mais se blottit de nouveau dans son coin pour plusieurs jours. Une semaine après, il eut une première crise d'épilepsie, maladie qui ne le quitta plus désormais. Fiodor Pavlovitch changea aussitôt sa manière d'être envers le gamin. Jusqu'alors, il le regardait avec indifférence, bien qu'il ne le grondât jamais, et lui donna un copec chaque fois qu'il le rencontrait. Quand il était de bonne humeur, il lui envoyait du dessert de sa table. La maladie de l'enfant provoqua sa sollicitude. Il fit venir un médecin, on essaya un traitement, mais Smerdiakov était incurable. Il avait en moyenne une crise tous les mois, à intervalles irréguliers. Les attaques variaient d'intensité, tantôt faibles, tantôt violentes. Fiodor Pavlovitch défendit formellement à Grigori de battre le gamin et donna à celui-ci accès dans sa maison. Il interdit également toute étude, jusqu'à nouvel ordre. Un jour, Smerdiakov avait alors 15 ans, Fiodor Pavlovitch l'aperçut en train de lire les titres des ouvrages à travers les vitres de la bibliothèque. Fiodor Pavlovitch possédait une 100aine de volumes, mais on ne l'avait jamais vu y toucher. Il donna aussitôt les clés à Smerdiakov. « Tiens, dit-il, tu seras mon bibliothécaire. Assieds-toi et lis. Cela vaudra mieux que de flâner dans la cour. Prends ceci. » Et Fiodor Pavlovitch lui tendit les soirées à la ferme près de Dikanka. Ce livre ne plut pas au garçon, qu'il acheva d'un air maussade, sans avoir ri une seule fois. « Eh bien, ce n'est pas amusant ?» lui demanda Fiodor Pavlovitch. Smerdiakov garda le silence. « Réponds donc, imbécile !»« Il n'y a que des mensonges là-dedans » marmotta Smerdiakov en souriant. « Va-t'en au diable, faquin ! Attends, voici l'histoire universelle de Smaragdov. Ici, tout est vrai. Lis !» Mais Smerdiakov n'en lut pas 10 pages. Il trouvait cela assommant. Il ne fut plus question de la bibliothèque. Bientôt, Marthe et Grigori rapportèrent à Fiodor Pavlovitch que Smerdiakov était devenu très difficile, qu'il faisait le dégoûter en contemplation devant son assiette de soupe. Il l'examinait, empuisait une cuillerée, la regardait à la lumière. « Il y a un cafard, peut-être ? » demandait parfois Grigori. « Ou bien une mouche ? » insinuait Marthe. Le méticuleux jeune homme ne répondait jamais, mais il procédait de même avec le pain, la viande, tous les mets. Prenant un morceau avec sa fourchette, il l'étudiait à la lumière comme au microscope et, après réflexion, se décidait à le porter à sa bouche. « On dirait un fils à papa !» murmurait Grigori en le regardant. Fiodor Pavlovitch, mis au courant de cette manie de Smerdiakov, décréta aussitôt qu'il avait la vocation de cuisinier et l'envoya apprendre son art à Moscou. Il y passa plusieurs années et revint fort changé d'aspect. Vieilli hors de proportion avec son âge, ridé, jauni, il ressemblait à un scopé. Moralement, il était presque le même qu'avant son départ. Toujours un vrai sauvage qui fuyait la société. On apprit plus tard qu'à Moscou, il n'avait guère desserré les lèvres. La ville elle-même l'avait fort peu intéressé. Une soirée passée au théâtre lui avait déplu. Il rapportait des vêtements et du linge convenables, brossait soigneusement ses habits 2 fois par jour et aimait beaucoup à cirer ses bottes élégantes, en veau, avec un cirage anglais spécial qui les faisait reluire comme un miroir. Il se révéla excellent cuisinier. Fiodor Pavlovitch lui assigna des gages qui passaient presque entièrement en vêtements, pommades, parfums, etc. Il paraissait faire aussi peu de cas des femmes que des hommes, se montrer avec elles, gourmet et presque inabordable. Fiodor Pavlovitch se mit à le considérer d'un point de vue un peu différent. Ses crises devenant plus fréquentes, Marthe Ignatievna le remplaçait ces jours-là à la cuisine, ce qui ne convenait nullement à son maître. « Pourquoi as-tu des crises plus souvent qu'autrefois ?» demandait-il au nouveau cuisinier en le dévisageant. « Tu devrais prendre femme. Veux-tu que je te marie ?» Mais Smerdiakov ne répondait rien à ses propos qui le rendaient blême de dépit. Fiodor Pavlovitch s'en allait en haussant les épaules. Il le savait foncièrement honnête, incapable de dérober quoi que ce fût, et c'était l'essentiel. Fiodor Pavlovitch, étant ivre, perdit dans sa cour 3 billets de 100 roubles qu'il venait de recevoir et ne s'en aperçut que le lendemain. Comme il fouillait dans ses poches, il les vit sur la table. Smerdiakov les avait trouvés et rapportés la veille. « Je n'ai jamais rencontré ton pareil, mon brave !» dit laconiquement Fiodor Pavlovitch, et il lui fit cadeau de 10 roubles. Il faut ajouter que non seulement il était sûr de son honnêteté, mais qu'il avait pour lui de l'affection, bien que le jeune homme lui fît la mine comme aux autres. Si l'on s'était demandé en le regardant, « À quoi s'intéresse ce jeune homme? Qu'est-ce qu'il préoccupe principalement ?» on aurait pu trouver de réponse. Cependant, tant à la maison que dans la cour ou dans la rue, il arrivait à Smerdiakov de demeurer plongé dans ses songes pendant 10 minutes. Son visage n'eut alors rien révélé à un physionomiste, aucune pensée du moins, mais seulement les indices d'une sorte de contemplation. Il y a un remarquable tableau du peintre Kramskoy, intitulé « Le contemplateur ». C'est l'hiver, dans la forêt. Sur la route se tient un paysan en houppelande déchirée et en bottes de tille qui paraît réfléchir. En réalité, il ne pense pas, il contemple quelque chose. Si on le heurtait, il tressaillirait et vous regarderait comme au sortir du sommeil, mais sans comprendre. À vrai dire, il se remettrait aussitôt, mais qu'on lui demande à quoi il songeait, sûrement il ne se rappellerait rien. Tout en s'incorporant l'impression sous laquelle il se trouvait durant sa contemplation. Ces impressions lui sont chères, et elles s'accumulent en lui, imperceptiblement, à son insu, sans qu'il sache à quelle fin. Un jour, peut-être, après les avoir emmagasinées durant des années, il quittera tout et s'en ira à Jérusalem faire son salut, à moins qu'il ne mette le feu à son village natal. Peut-être même fera-t-il l'un et l'autre. Il y a beaucoup de contemplateurs dans notre peuple. Smerdiakov était certainement un type de ce genre, et il emmagasinait avidement ses impressions, sans savoir pourquoi. Chapitre 7. Une controverse. Or, l'ânesse de Balaam se mit à parler soudain, et sur un thème bizarre. Le matin, Grigori, se trouvant dans la boutique du marchand Loukianov, l'avait entendu raconter ceci. Un soldat russe fut fait prisonnier dans une région éloignée par des Asiatiques qui le sommèrent, sous la menace de la torture et de la mort, d'abjurer le christianisme et de se convertir à l'islam. Ayant refusé de trahir sa foi, il subit le martyr, se laissa écorcher, mourut en glorifiant le Christ. Cette fin héroïque était relatée dans le journal reçu le matin même. Grigori en parla à table. Fiodor Pavlovitch avait toujours aimé, au dessert, plaisanter et bavarder, même avec Grigori. Il était cette fois d'humeur enjouée, éprouvant une détente agréable. Après avoir écouté la nouvelle en sirotant son cognac, il insinua qu'on aurait dû canoniser ce soldat et transférer sa peau dans un monastère. Le peuple la couvrirait d'argent. Grigori se renfrogna en voyant que, loin de s'amender, Fiodor Pavlovitch continuait à railler les choses saintes. À ce moment, Smerdiakov, qui se tenait près de la porte, sourit. Déjà auparavant, il était souvent admis dans la salle à manger, vers la fin du repas. Mais depuis l'arrivée d'Ivan Fiodorovitch, il y venait presque tous les jours. « Eh bien, quoi ?» demanda Fiodor Pavlovitch, comprenant que ce sourire visait Grigori. « Je pense à ce brave soldat, » dit soudain Smerdiakov à voix haute. « Son héroïsme est sublime, mais, à mon sens, il n'y aurait eu en pareil cas aucun péché à renier le nom du Christ et le baptême, pour sauver ainsi sa vie et la consacrer aux bonnes œuvres, qui rachèteraient un moment de faiblesse. « Comment, aucun péché ? Tu mens ! Cela te vaudra d'aller en enfer où l'on te rôtira comme un mouton !» répliqua Fiodor Pavlovitch. C'est alors que survint Alyosha, à la grande satisfaction de Fiodor Pavlovitch, comme on l'a vu. « Il est question de ton thème favori, » reprit-il dans un ricanement joyeux en faisant asseoir Alyosha. « Sottise que tout cela ! Il n'y aura aucune punition, il ne doit pas y en avoir, en toute justice !» affirma Smerdiakov. « Comment ? En toute justice ?» s'écria Fiodor Pavlovitch, redoublant de gaieté et poussant Alyosha du genou. « Un gredin, voilà ce qu'il est !» laissa échapper Grigori, fixant Smerdiakov avec colère. « Un gredin ? Comme vous y allez, Grigori Vassilievitch ?» répliqua Smerdiakov en conservant son sang-froid. « Songez plutôt que, tombé au pouvoir de ceux qui torturent les chrétiens, et sommé par eux de maudire le nom de Dieu et de renier mon baptême, ma propre raison m'y autorise pleinement, car il ne peut y avoir là aucun péché. Tu l'as déjà dit, ne t'étends pas, mais prouve-le, cria Fiodor Pavlovitch. Gâte sauce, murmura Grigori avec mépris. Gâte sauce, tant que vous voulez, mais sans gros mots, jugez-vous-même, Grigori Vassilievitch. Car à peine ai-je dit à mes bourreaux « Non, je ne suis pas chrétien et je maudis le vrai Dieu. » Qu'aussitôt, je deviens anathème aux yeux de la justice divine. Je suis retranché de la Sainte Église, tel un païen. Par conséquent, à l'instant même où je profère, ou plutôt où je songe à proférer ces paroles, je suis excommunié. Est-ce vrai, oui ou non, Grigori Vassilievitch ? Smerdiakov s'adressait avec une satisfaction visible à Grigori tout en ne répondant qu'aux questions de Fiodor Pavlovitch. Il s'en rendait parfaitement compte, mais feignait de croire que c'était Grigori qui lui posait ces questions. « Ivan, s'écria Fiodor Pavlovitch, penche-toi à mon oreille. C'est pour toi qu'il pérore. Il veut recevoir tes éloges. Fais-lui ce plaisir. » Ivan écouta avec un grand sérieux la remarque de son père. « Attends une minute, Smerdiakov !» reprit Fiodor Pavlovitch. « Ivan, approche-toi de nouveau !» Ivan se pencha, toujours avec le même sérieux. « Je t'aime autant qu'Alyosha. Ne va pas croire que je ne t'aime pas. Un peu de cognac ?»« Volontiers. Tu parais avoir ton compte !» se dit Ivan en fixant son père. Il observait Smerdiakov avec une extrême curiosité. « Tu es dès maintenant maudit en anathème !» éclata Grigori. « Comment oses-tu encore discuter, gredin ?»« Pas d'injure, Grigori. Calme-toi !» interrompit Fiodor Pavlovitch. « Patientez un tant soit peu, Grigori Vassilievitch, car je n'ai pas fini. Au moment où je renie Dieu, à cet instant même, je suis devenu une sorte de païen. Mon baptême est effacé et ne compte pour rien, n'est-ce pas ? Dépêche-toi de conclure, mon brave !» le stimula Fiodor Pavlovitch en sirotant son cognac avec délice. « Si je ne suis plus chrétien, je n'ai donc pas menti à mes bourreaux quand ils me demandaient « Es-tu chrétien ou non ?» car j'étais déjà déchristianisé par Dieu même, par suite seulement de mon intention et avant même d'avoir ouvert la bouche. Or, si je suis déchu, comment et de quel droit me demandera-t-on des comptes dans l'autre monde, en qualité de chrétien, pour avoir abjuré le Christ, alors que pour la seule préméditation j'aurais déjà été débaptisé? Si je ne suis plus chrétien, je ne puis plus abjurer le Christ, car ce sera déjà fait. Qui donc, même au ciel, demandera à un tatar de n'être pas né chrétien, et qui voudra l'en punir? Le proverbe ne dit-il pas que l'on ne saurait écorcher deux fois le même taureau? Si le Tout-Puissant demande des comptes à un tatar à sa mort, je suppose qu'il le punira légèrement, ne pouvant l'absoudre tout à fait, car il ne saurait vraiment lui reprocher d'être païen, de parent qu'il était. Le Seigneur peut-il prendre de force un tatar et prétendre qu'il était chrétien? Ce serait contraire à la vérité. Or, peut-il proférer le plus petit mensonge, lui qui règne sur la terre et dans les cieux? » Grégory demeura stupide et considéra l'orateur, les yeux écarquillés. Bien qu'il ne comprît pas très bien ce dont il était question, il avait saisi une partie de ce galimatia et ressemblait à un homme qui s'est heurté le front à un mur. Fiodor Pavlovitch acheva son petit verre et éclata d'un rire aigu. « Alyosha, Alyosha, quel homme ! Ah, le casuiste ! Il a dû fréquenter les jésuites, n'est-ce pas, Ivan ? Tu sens le jésuite, mon cher ! Qui donc t'a appris ces belles choses ? Mais tu mens effrontément, casuiste, tu divagues. Ne te désole pas, Grigori, nous allons le réduire en poudre. Réponds à ceci, Annès. Tu as raison devant tes bourreaux, soit, mais tu as abjuré la foi dans ton cœur, et tu dis toi-même que tu as aussitôt été frappé d'anathème. Or, comme tel, on ne te passera pas, que je sache, la main dans les cheveux, en enfer. Qu'en penses-tu, mon bon père jésuite ? Il est hors de doute que j'ai abjuré dans mon cœur. Pourtant, il n'y a là tout au plus qu'un péché fort véniel. Comment, fort véniel ? Tu mens, maudit, murmura Grigori. Jugez-en vous-même, Grigori Vassilievitch, continua posément Smerdiakov, conscient de sa victoire, mais faisant le généreux avec un adversaire battu. Jugez-en vous-même. Il est dit dans l'Écriture que si vous avez la foi, fût-ce la valeur d'un grain de sénévé, et que vous disiez à une montagne de se précipiter dans la mer, elle obéira sans la moindre hésitation. Eh bien, Grigori Vassilievitch, si je ne suis pas croyant, et que vous le soyez au point de m'injurier sans cesse, essayez donc de dire à cette montagne de se jeter, non pas dans la mer, c'est trop loin d'ici, mais tout simplement dans cette rivière infecte qui coule derrière notre jardin. Vous verrez qu'elle ne bougera pas, et qu'aucun changement ne se produira, si longtemps que vous criez. Cela signifie que vous ne croyez pas de la façon qui convient, Grigori Vassilievitch, et qu'en revanche, vous accablez votre prochain d'invectives. Supposons encore que personne à notre époque, personne absolument, depuis les gens les plus haut placés jusqu'au dernier manant, ne puisse pousser les montagnes dans la mer, à part un homme ou deux au plus, qui peut-être font secrètement leur salut dans les déserts de l'Égypte où on ne saurait les découvrir. S'il en est ainsi, si tous les autres sont incroyants, est-il possible que ceux-ci, c'est-à-dire la population du monde entier hormis deux anachorètes, soient maudits par le Seigneur et qu'ils ne fassent grâce à aucun d'eux en dépit de sa miséricorde infinie? Non, n'est-ce pas? J'espère donc que mes doutes me seront pardonnés quand je verserai des larmes de repentir. Attends, glapit Fiodor Pavlovitch au comble de l'enthousiasme. Tu supposes qu'il y a deux hommes capables de remuer des montagnes. Ivan, remarque ce trait, note-le. Tout le russe tient là-dedans. Votre remarque est très exacte. C'est là un trait de la foi populaire, fit Ivan Fiodorovitch avec un sourire d'approbation. Tu es d'accord avec moi. C'est donc vrai. Est-ce exact, Alyosha? Cela ressemble-t-il parfaitement à la foi russe?
Non, Smerdiakov n'a pas du tout la foi russe, déclara Alyosha d'un ton sérieux et ferme.
Je ne parle pas de sa foi, mais de ce trait, de ces deux anachorètes, rien que de ce trait. N'est-ce pas bien russe?
Oui, ce trait est tout à fait russe, concéda Alyosha en souriant.
Cette parole mérite une pièce d'or, Anès, et je te l'enverrai aujourd'hui même.
Mais pour le reste, tu mens, tu divagues.
Sache, imbécile, que si nous autres nous ne croyons plus, c'est par pure frivolité. Les affaires nous absorbent, les jours n'ont que 24 heures. On n'a pas le temps, non seulement de se repentir, mais de dormir son sou. Mais toi, tu as abjuré devant les bourreaux, alors que tu n'avais à penser qu'à la foi, et qu'il fallait précisément la témoigner. Cela constitue un péché, mon brave, je pense.
Oui, mais un péché véniel. Jugez-en vous-même, Grigori Vassilievitch. Si j'avais alors cru à la vérité, comme il importe d'y croire, c'eût été vraiment un péché de ne pas subir le martyre et de me convertir à la maudite religion de Mahomet. Mais je n'aurais pas subi le martyre, car il me suffisait de dire à cette montagne « Marche et écrase le bourreau !» pour qu'elle se mît aussitôt en mouvement et l'écrasa comme un cafard, et je m'en serais allé comme si de rien n'était, glorifiant et louant Dieu. Mais si à ce moment je l'avais déjà tenté et que j'eusse crié à la montagne « Écrase les bourreaux !» sans qu'elle le fît, comment alors, dites-moi, n'eussé-je pas douté à cette heure redoutable de frayeur mortelle? Comment? Je sais déjà que je n'obtiendrai pas entièrement le royaume des cieux, car si la montagne ne s'est pas ébranlée à ma voix, c'est que ma foi n'est guère en crédit là-haut, et que la récompense qui m'attend dans l'autre monde n'est pas fort élevée. Et vous voulez que par-dessus le marché, je me laisse écorcher en pure perte? Car même écorché jusqu'au milieu du dos, mes paroles ou mes cris ne déplaceront pas cette montagne. À pareille minute, non seulement le doute peut vous envahir, mais la frayeur peut vous ôter la raison. Par conséquent, suis-je bien coupable si, ne voyant nulle part ni profit ni récompense, je sauve tout au moins ma peau? Voilà pourquoi, confiant en la miséricorde divine, j'espère être entièrement pardonné.
Chapitre 8. En prenant le cognac. La discussion avait pris fin, mais, chose étrange, Fiodor Pavlovitch, si gai jusqu'alors, s'assombrit. Il vida un petit verre qui était déjà de trop.
« Allez-vous-en, jésuite, hors d'ici » cria-t-il au serviteur. « Va-t'en, Smerdiakov, tu recevras aujourd'hui la pièce d'or promise.
« Ne te désole pas, Grigori. Va trouver Marthe. Elle te consolera, te soignera. »
« Ces canailles ne vous laissent pas en repos, »
fit-il avec dépit quand les domestiques furent sortis sur son ordre. « Smerdiakov vient maintenant tous les jours après le dîner. C'est toi qui l'attires. Tu as dû le cajoler ?» demanda-t-il à Ivan Fiodorovitch.
« Pas du tout, » répondit celui-ci. « Il lui a pris fantaisie de me respecter. » « C'est un faquin, un goujat. Il fera partie de l'avant-garde quand le moment sera venu. »«
L'avant-garde ? Il y en aura d'autres et de meilleurs, mais il y en aura comme lui. »«
Et quand le moment viendra-t-il ?
La fusée brûlera, mais peut-être pas jusqu'au bout. Pour le moment, le peuple n'aime guère écouter ses gars de sauce. »«
En effet, cette ânesse de Balaam pense à n'en plus finir. » Et Dieu sait jusqu'où cela peut aller.
Il emmagasine des idées, fit observer Ivan en souriant.
Vois-tu, je sais qu'il ne peut me souffrir, ni moi ni les autres, toi le premier, bien que tu croies qu'il lui a pris fantaisie de te respecter. Quant à Alyosha, il le méprise. Mais il n'est ni voleur ni cancanier, il ne colporte rien au dehors, il fait d'excellentes tourtes de poisson. Et puis, après tout, que le diable l'emporte, vaut-il la peine de parler de lui?
Certainement non.
Quant à ses pensées de derrière la tête, j'ai toujours été d'avis que le moujik a besoin d'être fouetté. C'est un fripon, indigne de pitié, et on a raison de le battre encore de temps en temps. Le bouleau a fait la force de la terre russe. Elle périra avec les forêts. Je suis pour les gens d'esprit. Par libéralisme, nous avons cessé de rosser les moujiks, mais ils continuent de se fouetter eux-mêmes, et ils font bien. On se servira envers vous de la même mesure dont vous vous serez servi. C'est bien cela, n'est-ce pas? Mon cher, si tu savais comme je hais la Russie. C'est-à-dire, non, pas la Russie, mais tous ses vices, et peut-être aussi la Russie. Tout cela, c'est de la cochonnerie. Sais-tu ce que j'aime? J'aime l'esprit. Vous avez repris un verre. N'aviez-vous pas déjà assez bu? Attends, je vais encore en prendre un, puis un autre, et ce sera tout. Pourquoi m'as-tu interrompu? Dernièrement, de passage à Mokroyé, je me suis entretenu avec un vieillard. « Nous aimons plus que tout, m'a-t-il dit, condamner les filles au fouet, et nous chargerons les jeunes gars d'exécuter la sentence. Ensuite, le jeune homme prend pour fiancée celle qu'il a fouettée, de sorte que c'est devenu chez nous une coutume pour les filles. » « Quel sadique, hein? Tu auras beau dire, c'est spirituel. Si nous allions voir ça, hein? Alyosha, tu rougis. N'aie pas honte, mon enfant. C'est dommage qu'aujourd'hui je ne sois pas restée à dîner chez le père abbé. J'aurais parlé au moine des filles de Mokroyé. Alyosha, ne m'en veuille pas d'avoir offensé le père abbé. La colère me prend, car s'il y a un dieu, s'il existe... Évidemment, je suis coupable, et je répondrai de ma conduite. Mais s'il n'existe pas, quel besoin a-t-on encore de tes pères? Dans ce cas-là, il faudrait leur couper la tête. Encore ne serait-ce pas un châtiment suffisant, car ils arrêtent le progrès. Crois-tu, Ivan, que cette question me tourmente? Non, tu ne le crois pas, je le vois à tes yeux. Tu crois que je ne suis qu'un bouffon, comme on le prétend. Alyosha, crois-tu cela, toi? Non, je ne le crois pas. Je suis persuadée que tu parles sincèrement et que tu vois juste. Ce n'est pas comme Ivan. Ivan est un présomptueux. Pourtant, je voudrais en finir une bonne fois avec ton monastère. Il faudrait supprimer d'un coup cette engeance mystique sur toute la terre, pour convertir tous les imbéciles à la raison. Combien d'argent et d'or afflueraient alors à la monnaie? Mais pourquoi supprimer les monastères? Sans qui, Ivan? Afin que la vérité resplendisse plus vite. Quand elle resplendira, cette vérité, on vous dépouillera d'abord, puis on vous supprimera. Bah, mais tu as peut-être raison. Quel âne je suis! S'écria Fiodor Pavlovitch en se grattant le front. Paix à ton monastère, Alyosha, s'il en est ainsi. Et quant à nous, gens d'esprit, restons au chaud et buvons du cognac. C'est sans doute la volonté expresse de Dieu. Ivan, dis-moi, y a-t-il un Dieu, oui ou non? Attends, réponds-moi sérieusement. Pourquoi ris-tu encore? Je me rappelle votre remarque spirituelle sur la foi de Smerdiakov en l'existence de deux ermites capables de mouvoir les montagnes. Ai-je dit quelque chose du même genre? Tout à fait. Eh bien, c'est que je suis aussi bien russe. Toi aussi, tu l'es, philosophe. Il peut t'échapper des traits du même genre. Veux-tu que je t'attrape? Parions que ce sera dès demain. Mais dis-moi pourtant, y a-t-il un dieu ou non? Seulement, il faut me parler sérieusement. Non, il n'y a pas de dieu. Alyosha, Dieu existe-t-il? Oui, il existe. Ivan, y a-t-il une immortalité? Si petite soit-elle, la plus modeste? Non, il n'y en a pas. Aucune? Aucune. C'est-à-dire un zéro absolu ou une parcelle? N'y aurait-il pas une parcelle? Un zéro absolu. Alyosha, y a-t-il une immortalité? Oui. Dieu et l'immortalité ensemble? Oui, c'est sur Dieu que repose l'immortalité. Ce doit être Ivan qui a raison. Seigneur, quand on pense combien de foi et d'énergie cette chimère a coûté à l'homme en pure perte depuis des milliers d'années, qui donc se moque ainsi de l'humanité? Ivan, pour la dernière fois et catégoriquement, y a-t-il un dieu, oui ou non? Non, pour la dernière fois.
Qui donc se moque du monde, Ivan ?
Le diable, sans doute, ricana Ivan.
Le diable existe-t-il ?
Non.
Tant pis, je ne sais pas ce que je ferai au premier fanatique qui a inventé Dieu. Le pendre ne suffirait pas.
Sans cette invention, il n'y aurait pas de civilisation.
Vraiment ?
Oui, et il n'y aurait pas de cognac non plus. Il va falloir vous le retirer.
Attends, attends, encore un petit verre. J'ai offensé Alyosha. Tu ne m'en veux pas, mon cher petit.
Non, je ne vous en veux pas. Je connais vos pensées. Votre cœur vaut mieux que votre tête.
Mon cœur vaut mieux que ma tête, et c'est toi qui dis cela.
Ivan, aimes-tu Alyosha ?
Oui, je l'aime.
Aime-le.
Fiodor Pavlovitch était de plus en plus gris.
Écoute, Alyosha, j'ai été grossier tantôt envers ton staré, mais j'étais surexcité. C'est un homme d'esprit, qu'en penses-tu, Ivan ?
Cela se pourrait.
Certainement, il y a du Piron là-dedans. C'est un jésuite russe. La nécessité de jouer la comédie, de revêtir un masque de sainteté, l'indigne in petto, car c'est un noble caractère.
Mais il croit en Dieu.
Pas pour un copec, ne le savais-tu pas ? Il l'avoue à tout le monde, ou plutôt à tous les gens d'esprit qui viennent le voir. Il a déclaré sans détour au gouverneur Schlutz « Credo, mais j'ignore à quoi. »
Vraiment ?
C'est textuel, mais je l'estime. Il y a en lui quelque chose de Méphistophélès, ou mieux, du héros de notre temps. Arbénine, est-ce bien son nom ? Vois-tu, c'est un sensuel, et à tel point que je ne serais pas tranquille, même maintenant, si ma femme ou ma fille allait se confesser à lui. Quand il commence à raconter des histoires, si tu savais ce qu'il peut dire. Il y a 3 ans, il nous invita à prendre le thé, avec des liqueurs, car les dames lui envoient des liqueurs. Il se mit à décrire sa vie d'autrefois. On se pâmait de rire. Et comment il s'est pris pour guérir une dame ?
« Si je n'avais pas mal aux jambes, nous dit-il, je vous danserais une certaine danse.
Hein, quel gaillard !
Moi aussi j'ai mené joyeuse vie, ajouta-t-il.
Il a escroqué 60 000 roubles au marchand d'Emidov.
Comment, escroqué ?
L'autre les lui avait confiés, comme à un homme d'honneur. Gardez-les-moi, demain on perquisitionnera chez moi.
Le saint homme garda tout.
« C'est à l'église que tu les as donnés, » dit-il.
Je le traitai de gredin.
« Non, » répliqua-t-il, « mais j'ai les idées larges. »
Du reste, c'est d'un autre qu'il s'agit. J'ai confondu, sans m'en douter.
Encore un petit verre, et ce sera tout.
Enlève la bouteille, Ivan.
Pourquoi ne m'as-tu pas arrêté dans mes mensonges ?
Je savais que vous vous arrêteriez de vous-même.
C'est faux, c'est par méchanceté que tu n'as rien dit.
Tu me méprises, au fond. Tu es venu chez moi pour me montrer ton mépris.
Je m'en vais. Le cognac commence à vous monter à la tête.
Je t'ai instamment prié d'aller pour 1 ou 2 jours à Tchermachnia. Tu t'en es bien gardé.
Je partirai demain, puisque vous y tenez tant.
Il n'y a pas de danger. Tu veux m'espionner. Voilà ce qui te retient ici. Maudit.
Le vieux ne se calmait pas. Il en était à ce point où certains ivrognes, jusqu'alors paisibles, tiennent tout à coup à se montrer dans leur méchanceté.
« Qu'as-tu à me regarder ainsi ? Tes yeux me disent « Vilain ivrogne !» Il respire la méfiance et le mépris.
Tu es un rusé gaillard. Le regard d'Alexeï est rayonnant. Il ne me méprise pas, lui.
Alexeï, garde-toi d'aimer Ivan.
Ne vous fâche pas contre mon frère. Vous l'avez assez offensé comme ça. »
proféra Alyosha d'un ton ferme.
Soit. Ah, que j'ai mal à la tête. Ivan, enlève le cognac. Voilà 3 fois que je te le dis.
Il se prit à songer et eut tout à coup un sourire rusé.
Ne te fâche pas, Ivan, contre un pauvre vieux. Tu ne m'aimes guère, je le sais.
Pourquoi m'aimerais-tu ?
Mais ne te fâche pas. Tu vas partir pour Tchermachnia. Je te montrerai une fillette que je guigne depuis longtemps là-bas. Elle va encore nu-pied, mais ne t'effraie pas des filles aux pieds nus. Il ne faut pas en faire fi. Ce sont des perles. »
Il mit un baiser sur sa main et s'animant tout à coup, comme si son thème favori le dégrisait.
« Ah, mes enfants, reprit-il, mes petits cochons, pour moi, je n'ai jamais trouvé une femme laide. Voilà ma maxime. Comprenez-vous ? Non, vous ne le pouvez pas. Ce n'est pas du sang, c'est du lait qui coule dans vos veines. Vous n'avez pas tout à fait brisé votre coquille. D'après moi, toute femme offre quelque chose de fort intéressant, particulier à elle seule. Seulement, il faut savoir le découvrir. Voilà le hic. C'est un talent spécial. Pour moi, il n'y a pas de laideron. Le sexe, à lui seul, fait déjà beaucoup.
Mais cela vous dépasse. Même chez les vieilles filles, on trouve parfois des charmes tels qu'on se demande comment des imbéciles ont pu les laisser vieillir sans les remarquer. Il faut d'abord étonner une va-nu-pied. Voilà comment il faut s'y prendre. Tu ne le savais pas. Il faut qu'elle soit émerveillée et confuse de voir un monsieur amoureux d'un museau comme le sien. Par chance, il y a et il y aura toujours des maîtres pour tout oser et des servantes pour leur obéir. Cela suffit au bonheur de l'existence. À propos, Alyosha, j'ai toujours étonné ta défunte mère, mais d'une autre façon. Parfois, après l'avoir privée de caresses, je m'épanchais devant elle à un moment donné. Je tombais à ses genoux en lui baisant les pieds, et je l'amenais toujours à un petit rire convulsif, perçant mais sans éclat. Elle ne riait pas autrement. Je savais que sa crise commençait toujours ainsi, que le lendemain elle crierait comme une possédée, que ce petit rire n'exprimait que l'apparence d'un transport. Mais c'était toujours ça. On trouve toujours quand on sait s'y prendre. Un jour, un certain Believski, bellâtre riche, qui lui faisait la cour et fréquentait notre maison, me souffleta en sa présence. Elle, douce comme une agnelle, je crus qu'elle allait me battre. « Tu as été battue, il t'a giflé, disait-elle. Tu me vendais à lui. Comment a-t-il pu se permettre, devant moi ? Garde-toi de reparaître à mes yeux. Cours le provoquer en duel. » Je la conduisis alors au monastère, où l'on fit des prières sur elle pour la calmer. Mais, je te le jure devant Dieu, Alyosha, je n'ai jamais offensé ma petite possédée. Une fois seulement, c'était la première année de notre mariage. Elle priait trop, observait strictement les fêtes de la Vierge et me refusait l'entrée de sa chambre. « Je vais la guérir de son mysticisme, pensais-je. « Tu vois ? Dis-je, cette icône que tu tiens pour miraculeuse. Je l'enlève, je vais cracher dessus en ta présence, et je n'en serai pas puni. Dieu, elle va me tuer, me dis-je. Mais elle s'élança seulement, joignit les mains, cacha son visage, fut prise d'un tremblement et s'abattit sur le plancher. Alyosha, Alyosha, qu'as-tu ? Qu'as-tu ? Le vieillard se dressa, effrayé. Depuis qu'on parlait de sa mère, le visage d'Alyosha s'altérait peu à peu. Il rougit, ses yeux étincelèrent, ses lèvres tremblèrent. Le vieil ivrogne n'avait rien remarqué, jusqu'au moment où Alyosha eut une crise étrange, reproduisant trait pour trait ce qu'il venait de raconter de la possédée. Soudain, il se leva de table, exactement comme sa mère, d'après le récit, joignit les mains, s'en cacha le visage, s'affaissa sur sa chaise, secoué tout entier par une crise d'hystérie accompagnée de larmes silencieuses. « Yvan, Yvan, vite de l'eau ! C'est tout à fait comme sa mère. Prends de l'eau dans la louche pour l'en asperger, comme je le faisais avec elle. C'est à cause de sa mère, à cause de sa mère » murmurait-il à Yvan. « Sa mère était aussi la mienne, je suppose. Qu'en pensez-vous ? » ne put s'empêcher de dire Yvan avec un mépris courroucé. Son regard étincelant fit tressaillir le vieux, qui, chose bizarre, parut pour un instant perdre de vue que la mère d'Alyosha était aussi celle d'Yvan. « Comment, ta mère ? » murmura-t-il sans comprendre. « Pourquoi dis-tu cela ? À propos de quelle mère ? Est-ce qu'elle... Ah, diable, c'est aussi la tienne !
Eh bien, où avais-je la tête? Excuse-moi, mais je croyais, Yvan...
Il s'arrêta avec un sourire hébété d'ivrogne. Au même instant, un vacarme retentit dans le vestibule. Des cris furieux s'élevèrent, la porte s'ouvrit et Dmitri Fiodorovitch fit irruption dans la salle. Le vieillard épouvanté se précipita vers Yvan.
« Il va me tuer! Ne me livre pas !»
s'écria-t-il, accroché au pan de l'habit d'Yvan.